Entre deux, il y a eu le pèlerinage en Israël, un pèlerinage bien entouré, bien porté et très beau. Puis il y a eu ensuite l'alliance avec la retraite sur l'alliance avec Jean Meunier. Là, il y avait un père jésuite là, que je connais, que j'aime beaucoup, qui était grippé. Et alors, à la fin de la retraite, j'étais grippé. C'est une vaste communicant, comme ça. Alors, je lui ai dit que j'avais communiqué la parole et que lui avait communiqué la grippe. C'était de bons échanges. Et là, c'est pour ça que je suis un peu grippé et que ça porte sur la voix. Enfin, c'était très bien. C'était toujours très bien. Avec Jean Vanille, il y a toujours des dominicains et des jésuites qui font la même œuvre. Ça, ça permet. C'est l'alliance avec le pauvre qui permet d'unir les dominicains et les jésuites. Parce que là, la doctrine est tout à fait mise en second. C'est vraiment le pauvre qui est premier. Alors, grâce à ça, c'est une unité profonde. Alors, nous allons continuer d'entrer dans ce mystère des sacrements. Nous avions essayé de comprendre, en premier lieu, et j'avais insisté beaucoup sur le mystère de l'Eucharistie, pour découvrir à travers le mystère de l'Eucharistie ce qui caractérise la sacramentalité. Ce par quoi un sacrement est sacrement. C'est ça la sacramentalité. C'est-à-dire d'essayer de comprendre cette invention de la sagesse de Dieu qui a voulu que le mystère de Jésus, le mystère de l'incarnation, continue à travers les sacrements. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de saisir. C'est que le mystère de l'incarnation, c'est l'éternité dans le temps. Celui qui vient après moi est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et l'évangile d'aujourd'hui, avant qu'Abraham fût, je suis. Je crois que c'est très important. Jean-Baptiste, témoin, montre ce qu'est le mystère de l'incarnation. L'éternité dans le temps, qui fait que l'éternité brûle le temps, parce que l'éternité c'est Dieu, c'est le feu, c'est l'amour, il brûle le temps sans consumer le temps, comme le buisson ardent. Le temps demeure, mais il n'est plus le même. Et c'est ça qui est très mystérieux, c'est un sens tout à fait rigoureux. Y a-t-il une histoire de l'Église au sens fort? Il y a un vivant qui, de fait, se développe dans des circonstances et des lieux très différents, mais ce vivant, c'est le mystère de Jésus qui continue. L'Église continue la mission du Christ. Le Saint-Père l'a dit avec beaucoup de force dans sa première encyclique, Redemptor Omnis. Le Saint-Père le répète constamment comme une de ses vérités à laquelle il tient beaucoup. La mission de l'Église, c'est la mission du Christ. Et c'est très important de nous rappeler ça. Alors, ça veut dire que Jésus, qui est l'éternité dans le temps, parce que c'est l'éternité dans le temps, doit se continuer. L'éternité ne peut pas s'arrêter. C'est quelque chose d'éternel. Donc ça ne peut pas s'arrêter, ça n'a pas part de fin. Mais le temps continue autant de temps que Dieu le voudra. Et c'est un peu ce mystère d'éternité dans le temps qui doit nous aider à comprendre le pourquoi de la sacramentalité. Pourquoi les sacrements? Il faut nous donner un signe tangible de quelque chose d'éternel dans le temps. Nous donner un signe tangible que le mystère d'amour de Dieu qui est éternel assume le temps et lui donne une nouvelle signification. Et je crois qu'on pourrait découvrir, je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais On y réfléchit toujours. Hein. Et quand on va en Israël, on reprend toute cette théologie à la source, et on doit la reprendre toujours à la source. Et alors, c'est bien le mystère du temps, mais n'oublions pas l'éternité, le temps et le lieu, les deux conditionnements humains. L'éternité donne alors au temps et au lieu une nouvelle valeur. Et il faut que ça soit exprimé. Il faut que ce soit tangible. Dieu aurait pu très bien ne pas le rendre tangible. Dieu aurait pu très bien réaliser uniquement le mystère de l'incarnation. Mais pour que le mystère de l'incarnation soit plaigné, le plérôme de l'incarnation, c'est l'Église. C'est le plérôme de l'incarnation, donc c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement du mystère de l'incarnation, le mystère de l'Église. Or, l'Église, ce sont les sacrements. Si vous supprimez les sacrements, vous supprimez l'Église. Et l'Église n'est pleinement elle-même que là où les sacrements sont vécus pleinement. Là où les sacrements ne sont plus vécus pleinement, ce n'est plus l'Église. Ça, c'est très net. Et c'est par là que nous pouvons saisir, au point de vue œcuménique, si vous voulez, la différence qui peut exister entre le point de vue des différentes églises. Une église qui a tous les sacrements, l'église orthodoxe, comme l'église catholique, sont deux églises sœurs. Nous ne disons pas ça de l'église réformée. Et tous les sacrements ne sont plus là. Le plérôme du Christ, c'est donc les sacrements. Et là, ça nous aide à mieux comprendre ce que représente cette invention de Dieu pour que, à travers le temps, à travers les lieux, le mystère de l'incarnation continue. Continue d'une manière particulière, c'est bien évident, c'est pas... Dans l'Ancien Testament, la continuité se faisait par la procréation. Abraham, Isaac, Jacob, c'est net. C'est pour nous la continuité la plus simple à comprendre. Le père continue de vivre dans son fils, et le grand-père continue de vivre dans son petit-fils. Et il y a une continuité vitale. Une continuité vitale qui est nette, qui est facile à comprendre, qui est tangible. Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus cette continuité. Et là, il y a quelque chose de très significatif. Ça nous fait comprendre toute la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. L'Ancienne Alliance n'est pas encore l'éternité dans le temps. C'est vers l'éternité. C'est pour ça qu'il y a une histoire sainte. Et l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire sainte. Tandis qu'au contraire, le mystère de l'Église, c'est très différent. Le mystère de l'Église, c'est Jésus qui, lui, achève tout. Dans le Christ, toute l'humanité est achevée. Dans le Christ, tout atteint son terme. L'Épître aux Colossiens, qui montre ça d'une façon magnifique. Tout atteint son terme. Dans le Christ. Et pourtant, ça continue. Très drôle, ça. Normalement, ça devrait disparaître. Hein. Et avec Jésus, tout devrait se terminer. C'est quand même très curieux qu'avec Jésus, et après Jésus, il y ait encore quelque chose. Une alliance qui continue. Une alliance sainte qui continue. Et cette alliance va avoir quelque chose de particulier, c'est une surabondance. Pour bien nous faire comprendre que normalement tout se termine avec Jésus. Et le régime des sacrements, c'est la surabondance. C'est quelque chose qui vient s'ajouter à travers le temps. Combien de temps ça va durer, je n'en sais rien. Vous non plus. Je n'en sais rien du tout. Nous avons, nous, toujours un certain esprit systématique. Et alors, disons, 2000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans après Jésus-Christ, donc, on a touché le terre, nous allons y aller. Parce que pour nous, c'est comme ça, il y a une grande attente, le sommet, puis après, on continue. Mais ce n'est pas du tout la même chose, vous comprenez? Parce que c'est la grande attente vers Jésus, et puis après, c'est le haut plateau. Hein. Avec des creux de temps en temps. Mais c'est le haut plateau. C'est le haut plateau, c'est-à-dire c'est le plérôme de Jésus qui continue, c'est le mystère de Jésus qui continue. Et ce mystère de continuité du Christ, puisque c'est le mystère de l'incarnation, doit être tangible. Et comme c'est le mystère de l'incarnation, il doit être efficace. Donc, la sagesse de Dieu va inventer des signes efficaces. Ce sont des gestes qui vont continuer. D'une manière très particulière, puisque ce sont des gestes. Les gestes, ordinairement, sont liés à une personne. Les gestes sont liés à une personne. C'est l'action de la personne, c'est la parole de la personne, ou c'est la présence de la personne. C'est lié à une personne. Ici, la personne, elle est auprès du Père. Assis à la droite du Père. Donc, n'est plus présente. Alors, Dieu va inventer, il faut bien le voir, quelque chose de nouveau, un ordre nouveau, qui n'est pas d'ordre ontologique, premièrement, c'est pas une nouvelle création particulière avec, non, ce sont les hommes qui deviennent chrétiens. Mais c'est quand même un ordre nouveau. Et cet ordre nouveau, il est directement l'œuvre de la sagesse de Dieu dans l'ordre surnaturel. Les sacrements sont d'ordre surnaturel. C'est pas d'ordre préternaturel, c'est d'ordre surnaturel. C'est quelque chose qui, tout de suite, dépend du mystère même de Jésus. D'où la grande vision de saint Augustin. Les sacrements jaillissent de la blessure du cœur de Jésus. Et on comprend très bien, c'est très beau cette vision qui est restée dans l'Église. On peut dire qu'elle est classique dans l'Église. Et découvrir, c'est vraiment de la blessure du cœur de Jésus que jaillit cet ordre nouveau qui est l'ordre des sacrements. Et c'est beau que ce soit de la blessure du cœur de Jésus, parce que la blessure du cœur de Jésus, c'est au terme. Et si on est attentif à l'évangile de saint Jean, je vous l'ai déjà dit, c'est lié au cri de soif. Je crois qu'il y a un lien entre les deux. C'est le geste et la parole. Alors, c'est la soif, c'est-à-dire la surabondance. Et il y a un lien, donc, très direct entre le cri de soif, la blessure du cœur et les sacrements. On est dans un ordre de surabondance. On n'est pas du tout dans un ordre de nécessité. Un ordre de surabondance d'amour. La loi s'inscrivait dans la foi, l'espérance et l'amour, mais la loi s'inscrivait dans ce que représentait l'homme. Le contenu de la loi, le décalogue, peut s'expliquer uniquement philosophiquement. C'est la question qu'on se posait hier à Saint-Jean-d'Arc. Est-ce qu'on pourrait, en regardant l'Ancien Testament, découvrir une politique religieuse? L'Ancien Testament, est-ce qu'il représente pour nous une politique religieuse? Mais c'est très intéressant, je crois, comme question. Et ce serait très intéressant d'y répondre. Parce que, de fait, la loi, dans son contenu, je ne dis pas dans son origine, mais dans son contenu, dans sa spécification, si vous voulez, si on l'analyse, peut entièrement s'expliquer au point de vue humain. Philosophiquement parlant, la loi est compréhensible pour le philosophe. La bonne preuve, c'est qu'on a dit justement que la loi n'ajoutait rien du tout par rapport à certaines législations contemporaines de Moïse. Et c'est vrai. Donc, c'est bien une politique religieuse dont le premier commandement, c'est l'adoration. Comme toute politique est liée à une éducation. Le propre de la politique, c'est d'être lié à une éducation. Vous avez, dans l'ancienne alliance, une politique religieuse qui implique une éducation. Cette éducation, elle nous est donnée à travers le décalogue. Si le décalogue peut s'expliquer purement philosophiquement, purement humainement, nous sommes bien en face d'une politique religieuse dont le décalogue exprime les exigences de l'éducation. La foi n'illumine pas immédiatement le décalogue. À la différence, si vous voulez, de la Nouvelle Alliance, où tous les commandements sont repris dans le commandement d'aimer Dieu et aimer le prochain. Et ça ne peut pas se comprendre humainement parlant. Humainement parlant, vous ne pouvez pas dire que c'est le même amour à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. C'est pas possible. Ça ne peut se comprendre que dans la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et c'est la très grosse différence avec l'Ancien Testament. Et je crois que ça, c'est très important de comprendre que la loi s'inscrit à l'intérieur d'une responsabilité humaine. Mais une responsabilité humaine religieuse. Une responsabilité humaine pleinement humaine. L'homme n'est parfaitement humain que quand il est religieux. Les religieux sont parfaitement humains, mais vous voyez bien, c'est que l'homme est parfaitement humain que quand il va jusqu'à l'attitude religieuse. L'attitude religieuse fait partie de l'attitude humaine, et l'attitude humaine qui va jusqu'au bout. C'est pour ça que la vie religieuse existe dans n'importe quelle orientation religieuse. Parce que la vie religieuse, comme telle, n'est pas spécifiquement chrétienne. Elle est spécifiquement humaine. L'attitude religieuse. Elle représente ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, et de plus grand et de plus noble dans l'homme. Il ne faut pas l'oublier. C'est ce qu'il y a de plus humain et de plus noble dans l'homme, cette attitude religieuse. Bien, cette attitude religieuse de l'homme va se structurer grâce au décalogue. Et cette attitude religieuse est ordonnée à la foi, à l'espérance et à l'amour. Avec Jésus, la foi, l'espérance et l'amour touchent leur terme, leur plénitude, leur achèvement. Et donc, il ne peut plus y avoir, après le Christ, une montée du côté de l'amour. Il ne peut plus y avoir, après Marie, une montée du côté de la foi et de l'espérance. Avec Jésus et Marie, on touche un terme, on touche une plénitude. Et donc, d'une certaine manière, le temps ne devrait plus exister. Si Dieu avait notre logique, on aurait dit, avec Jésus et avec Marie, tout s'achève. Et tout se serait achevé avec la croix et la résurrection. Et l'humanité, à partir de la résurrection, il n'y aurait pas eu qu'un seul tombeau ou plusieurs tombeaux qui seraient ouverts, mais des quantités de tombeaux et tous les tombeaux. Et puis ça aurait été fini. Ça, c'est une logique, vous voyez, parce que quand on atteint le terme, il n'y a plus rien après, quoi, c'est plus la peine. Et qu'est-ce qui se fait que Jésus veut qu'il y ait un temps après sa résurrection? C'est ce que nous vivons. Hein. Donc de temps en temps, on doit se poser le problème pour savoir un tout petit peu ce qu'on fiche sur la terre. Quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait, hein. C'est vrai que c'est, d'une certaine manière, on dit, mais quoi, on ne peut pas aller au-delà du Christ, on ne peut pas aller au-delà de Marie. Alors quoi? On n'a plus qu'à les imiter. C'est pas très drôle d'imiter. Hein. Quand on sait qu'on n'y arrivera jamais, alors c'est encore plus difficile. Parce Parce qu'on fait des efforts héroïques pendant 8 jours, et puis patatras, ça dégringole. Mais bon, c'est normal, parce que qui veut aller trop loin, on sait très bien ce que ça fait. Alors, quand même, c'est très très curieux, ça. C'est extrêmement curieux de voir que Dieu a voulu qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit un sacrement, qui constitue un ordre nouveau, un ordre de réalité, qui constitue cela pour permettre une surabondance d'amour. Le plérou du Christ. Pour que le mystère de Jésus continue et s'achève. Pour qu'il puisse y avoir des hommes et des femmes qui soient alliés au Christ, de cette alliance d'époux et d'épouses, d'amis, tout en étant des enfants, tout en étant des tout-petits, pour réaliser la même œuvre que le Christ et continuer son œuvre. Alors ça, il faut réfléchir là-dessus, et puis voir comment Dieu a répondu. Toujours se poser le problème pour comprendre la réponse. Parce qu'autrement, on vit à l'intérieur et puis on se dit, c'est comme ça, j'ai vécu les sacrements, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment Dieu a-t-il voulu que, de fait, il y ait cet achèvement, ce plérôme de surabondance, alors que tout est achevé? Mais alors, ça fait mieux comprendre combien la nouvelle alliance est une alliance d'amour. Et ça veut mieux comprendre comment, dans cet amour, il faut saisir la sacramentalité. En dehors de l'amour, vous ne pouvez pas saisir ce qu'est le sacrement. Ce sont les sacrements de l'amour. Parce que c'est les sacrements du plérôme du Christ. C'est les sacrements qui viennent achever. Alors, à l'intérieur de l'amour, de cet amour surabondant, de cet amour qui veut se donner pleinement et totalement, dans sa sagesse, Jésus, nouveau législateur, institue l'Eucharistie. Et en instituant l'Eucharistie, j'allais dire, dans sa source, tous les sacrements sont présents. Jésus, en instituant l'Eucharistie, le jeudi saint, c'est la grandeur du jeudi saint, Jésus, en instituant l'Eucharistie, le jeudi saint, réalise quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a bien la référence à l'ancienne alliance, mais il y a le lavement des pieds pour nous faire comprendre ce passage dans la discontinuité. Il y a quelque chose qui est repris à la racine. Et c'est pour ça que je dis bien, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ce n'est pas une nouvelle création, c'est bien évident. La création est à partir de rien. Et c'est une reprise radicale pour demeurer présent. Pour ça. Pour que la présence de Jésus demeure d'une manière tangible, et que ce soit une présence substantielle, donc une présence personnelle, et pour que nous comprenions que cette présence, elle se réalise dans un don. C'est une présence active, elle se réalise dans un don. C'est une présence capable de nous transformer. Elle est efficace. Alors, on comprend comment, dans sa sagesse, Dieu a voulu réaliser des signes divins, des symboles divins, qui soient en même temps efficaces. Parce que c'est un ordre divin. Dans l'ordre humain, Et c'est le propre à l'ordre humain. Dans l'ordre humain, on peut séparer la signification et l'efficacité. C'est même le propre du conditionnement humain. Je crois que presque tous les philosophes ont compris cette petite distinction entre l'ordre de la signification et l'ordre de l'efficacité. La signification, vous voyez bien, ça représente tout ce que nous pouvons comprendre, connaître. Et l'efficacité, c'est dans l'ordre pratique, c'est le travail. Autrement dit, nous faisons la distinction entre la connaissance et le travail. Vous voyez comme c'est intéressant, la dialectique marxiste qui veut dépasser cette distinction. Ça, c'est une nostalgie du divin. Parce que, au point de vue humain, il y a toujours une distinction entre ce que nous connaissons et ce que nous réalisons par le travail. Deux choses différentes. Celui qui fait un plan pour diriger le travail sait très bien que ce n'est pas la même chose de faire le plan et l'exécution. Il voudrait bien que ce soit la même chose, ça irait un peu plus vite, hein, mais ce n'est pas la même chose. Il y a le plan, qui peut être très intelligent, puis il y a l'exécution. Et jamais l'exécution sera parfaitement adéquate au plan. Jamais. Il y aura toujours une petite araignée qu'on n'a pas vue, n'est-ce pas, et qui se fourra au mauvais moment pour faire que tout craque. Alors évidemment, quand ça craque, on accuse. On avait vu ça dans le temps, vous savez, le barrage de Fréjus, quand il y a eu ça. Je me souviens de toutes les grosses discussions que c'est nécessaire, il aurait dû prévoir. Non, parce que le plan n'implique pas la matière. Alors même si le métaphysicien ne regarde pas directement la matière, ça existe. Ça a son poids. Ça, c'est la petite araignée, vous voyez, qui vient s'ajouter, qu'on n'avait pas prévu. C'est curieux, ces choses. Bon, humainement, il y a deux choses différentes. Le point de vue de la pensée et le point de vue de l'exécution, et le point de vue du travail. L'ordre divin. Dieu crée par sa parole. La signification et l'efficacité sont intimement liées. La parole de Dieu est efficace. Dieu dit, et ça c'est exact. Dieu n'a pas besoin d'avoir un bureau de travail pour lequel il fait un plan, et puis après il exécute. Non, pas du tout. Il dit, et puis ça se fait. Le propre du mystère de Dieu, le propre de l'ordre divin, c'est de faire que spécification et efficacité se tiennent. Et que dans la sagesse de Dieu, signification va impliquer une efficacité. Et que toute efficacité provient d'une détermination de Dieu. Pas de distinction entre les deux. C'est assez étonnant, ça. C'est très important de prendre cet argument par rapport, vous voyez, aux réformés, aux protestants, qui ont de la peine à comprendre que les sacrements sont efficaces par eux-mêmes. C'est, je crois, le seul argument qu'on doit prendre. C'est l'argument de la parole de Dieu. Comme ils sont très sensibilisés au mystère de la parole de Dieu, il faut prendre cet argument-là. La parole de Dieu est efficace. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est quand même très fort, ça. Alors, le sacrement, ce n'est pas uniquement la parole, c'est la parole avec l'élément. La parole de saint Augustin. Verbum ad elementum fit sacramentum. Je dis que vous allez savoir ça par cœur. N'est-ce pas ? Donc, verbe, la parole liée à l'élément, fait le sacrement. Mais la parole est divine, et la parole porte l'élément, et fait que l'élément devient divin, symbolisme divin. Donc, qui fait que la parole est efficace. travers l'élément. Et la parole liée à l'élément, tous les deux sont efficaces parce qu'ils sont directement sous la mouvance de Dieu. Causalité instrumentale, signe divin. Causalité instrumentale divine, signe divin. Alors vous avez le lien entre les deux. Et c'est ça qui est très important pour essayer de saisir ce que représente cet ordre particulier de la sacramentalité. Cet ordre particulier de la sacramentalité est d'ordre divin. Donc, c'est un mystère qui nous dépasse. C'est pas étonnant, puisqu'il est dans le prolongement du mystère de l'incarnation. Il est le prolongement du mystère de l'incarnation d'une façon très particulière pour le pèlerinage de l'Église. Et donc, pour permettre que le mystère de l'incarnation demeure au milieu de nous, d'une façon symbolique et d'une façon réelle. Que nous puissions saisir comment le geste du Christ demeure au milieu de nous. C'est pour ça que ce n'est pas seulement la parole. Parce que le mystère de l'incarnation, c'est la parole devenue chair. Alors, si c'est la parole devenue chair, il faut que les sacrements implique la parole et la chair, l'élément, quelque chose de visible et tangible. Une fois que nous avons compris ça, nous avons essayé de voir ce qu'il y a d'original dans les sacrements. Quelque chose de tout à fait nouveau. Et l'Église, c'est les sacrements. Pas autre chose. Hein. C'est autre chose, oui. Dans ce sens que l'Église sur la terre, précisons, l'Église sur la terre, c'est les sacrements. C'est le lieu des grands pâturages où l'homme, transformé par la grâce, pourra vivre pleinement et totalement du Christ. Donc l'Église, c'est nous, avec le secours des sacrements. Et les sacrements sont pour nous. Les sacrements sont pour les hommes. C'est-à-dire, les sacrements sont pour les chrétiens. Pour les chrétiens, les sacrements. Et parce que c'est pour les chrétiens, c'est pour tous les hommes. Parce que tous les hommes sont, selon la sagesse de Dieu, ordonnés à cela. Alors, nous avons vu comment Jésus avait voulu un ordre de sa sagesse, unir le mystère de l'Eucharistie et le mystère du sacerdoce. C'est important pour nous de bien comprendre que ce lien est un lien qui relève de l'ordre de la sagesse de Dieu, de la volonté de Dieu. Ce n'est pas un lien logique. Ça pourrait très bien ne pas être uni. La preuve, c'est que dans l'Ancien Testament, le grand symbolisme de l'Eucharistie, la manne, n'implique aucun instrument. Il est venu directement devant Dieu. Alors on comprend très bien qu'il peut y avoir des nostalgies de dire, au fond, après, le prêtre n'a rien à voir avec l'Eucharistie, il suffit qu'il y ait l'assemblée. L'assemblée des chrétiens suffit. Ils n'ont qu'à prier avec une très grande intensité, et leur désir se trouvera réalisé. Et donc, le mystère de l'Eucharistie, comme la manne dans l'Ancien Testament, vous est donné directement par Dieu. L'Église sait qu'il y a cette tentation. L'Église est mère, l'Église est éducatrice. Elle est éducatrice dans l'ordre de la foi, alors de l'espérance et de l'amour. Et l'Église a averti non. Dieu a voulu que pour le don de son corps et de son sang, Dieu a voulu pour que le mystère de la croix demeure au milieu de nous, et que le mystère de la croix demeure au milieu de nous dans cette surabondance d'amour, Dieu a voulu qu'il y ait des instruments, des hommes, choisi parmi les autres hommes, ayant reçu du Christ un pouvoir. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce ministériel. Il faut bien comprendre que c'est une volonté expresse du Christ. Une fois qu'on a compris que c'est une volonté expresse du Christ, il y a beaucoup de faux problèmes qui dégringolent. Parce que si on avait été à la place du Christ, on aurait fait autre chose, autrement. On aurait dit, ah, les femmes sont quand même bien plus fidèles que les hommes, puisqu'il n'y avait plus de femmes à la croix que les hommes. Donc elles ont mérité d'être prêtres. Très bien, ça, c'est sûr. S'il s'agissait du mérite, les femmes seraient passées devant. Sûrement. Il ne s'agit pas du mérite. Il s'agit d'autre chose. On est dans un ordre sacramentel, un ordre de surabondance d'amour voulu par Dieu. Et dans cet ordre, Jésus institue l'Eucharistie et remet l'Eucharistie à ses apôtres. C'est le testament de Jésus. C'est la manière dont Jésus montre à ses apôtres la confiance qu'il a en eux. Il leur confie ce qu'il a lui-même réalisé et institué, l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, ceci relève d'une volonté expresse du Christ, une volonté de son testament d'amour, pour montrer le caractère très impératif de cette volonté. Ce n'est pas n'importe quelle volonté. C'est une volonté ultime d'amour qui relie l'Eucharistie à un nouveau sacrement, le sacrement de l'ordre. Alors, je vous ai dit que pour bien comprendre le sacrement de l'ordre, le Concile Vatican II nous demander de bien saisir la différence qui existe entre le sacerdoce royal des fidèles et le sacerdoce ministériel du prêtre. Et je crois que nous devons répondre à cette demande de l'Église. Nous devons essayer de comprendre plus avant, parce que le Concile ne fait que distinguer les deux. Le Concile ne fait pas de la théologie. Le Concile affirme, parce que le Concile nous éduque au point de vue de la foi. C'est nous qui devons comprendre pourquoi, dans la sagesse de Dieu, cette distinction. Et comment comprendre cette distinction ? Comprendre que le sacerdoce ministériel fait partie de l'ordre des sacrements. Et que le sacerdoce royal des fidèles est au-delà des sacrements. Je crois que c'est la première chose qu'on doit comprendre. C'est pour ça que l'opposition qu'on fait entre les deux, du moins la distinction qu'on fait entre les deux, il faut bien maintenir, c'est une distinction, ce n'est pas une opposition. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre les deux, puisqu'ils ont la même source. Mais, de fait, ça représente deux aspects très différent. J'allais dire deux participations très différentes. Et je crois que là, vraiment, il y a deux participations très différentes au niveau proprement du mystère de l'Église. Alors, c'est ça qui m'intéresse à voir. D'où viennent ces deux participations? Comment comprendre ces deux participations? Regardons, si vous voulez, le sacerdoce royal des fidèles, en premier lieu. Le sacerdoce royal des fidèles nous fait comprendre comment notre grâce chrétienne, nous reliant au sacerdoce de Jésus, notre grâce chrétienne nous faisant participer à la nature divine et participer par Jésus à cette nature divine, notre grâce chrétienne nous lie au Christ dans son mystère de fils bien-aimé, dans son mystère sacerdotal, dans la plénitude de sa grâce. Alors voyez, précisons ces aspects que nous connaissons déjà au point de vue théologique. Je crois que c'est toujours le préciser pour bien saisir ce que représente cette participation au sacerdoce de Jésus quand on parle du sacerdoce royal de Fidèle. Si je regarde le mystère du Christ, ce qui a d'ultime, c'est sa filiation. L'agapétos, il est le Fils bien-aimé. Et c'est toujours à cette lumière-là qu'on doit revenir. Il est le Fils bien-aimé du Père. Il y a en lui la plénitude de l'art. Et il y a en lui le sacerdoce. Par où il est médiateur. Il est médiateur comme prêtre. Il est médiateur aussi comme prophète. Il est médiateur aussi comme roi. Mais nous pouvons dire que cette médiation prophétique est rattachée au sacerdoce et que cette médiation royale est rattachée au sacerdoce. Jésus est prophète et roi. On ne peut pas l'oublier, ça fait partie de notre foi. Jésus est prophète et roi en tant que médiateur, en tant que prêtre, dans sa médiation sacerdotale. Et il est prêtre dans sa plénitude de grâce. Et cette plénitude de grâce, elle est celle du Fils bien-aimé. C'est pour ça que je crois qu'on doit toujours bien distinguer ces aspects en comprenant qu'ils se tiennent. Il est le Fils bien-aimé parce qu'il est le Verbe. Alors, il est le Fils bien-aimé. Et la plénitude de grâce est le sacerdoce. Et la médiation prophétique royale quand même Jésus est homme. C'est en tant qu'homme qu'il a la plénitude de grâce. Et cette plénitude de grâce, elle est reçue dans son âme spirituelle. Et la médiation sacerdotale est reliée à cette plénitude de grâce. Donc, c'est dans son âme spirituelle que Jésus a cette plénitude de grâce. Tandis qu'il est Fils bien-aimé en tant qu'il est le Verbe. Comprenez bien ça. Donc ça, je résume rapidement la théologie du mystère du Verbe incarné. Et il faut tout le temps y revenir, puisque de fait, les sacrements ne se comprennent que dans la lumière du Christ. On ne peut pas se comprendre autrement. C'est le Verbe devenu chair, le Verbe lié à l'élément. C'est la même chose. Exactement la même chose. Il faut saisir bien cela. Vous ne pouvez pas comprendre les sacrements indépendamment du Christ. Théologiquement parlant, les sacrements sont liés au pléron de Christ. C'est le pléron de Christ. Donc c'est la surabondance du mystère du Christ qui nous est donné. Et c'est pour ça que les sacrements constituent l'Église dans son pèlerinage. Il s'agit de comprendre, encore un instant, il s'agit de comprendre le lien entre la plénitude de grâce et le sacerdoce. Et puis ensuite, les sacrements. Jésus a-t-il vécu des sacrements ? Non. Il est l'auteur et la source. Marie a-t-elle vécu des sacrements ? Oui. Donc vous voyez tout de suite qu'il faut bien distinguer que les sacrements par rapport à tous ceux qui participent de la plénitude de grâce du Christ, à tous ceux qui sont relatifs au Christ. Et donc les sacrements nous font comprendre ce caractère d'être relatif au Christ. C'est être tourné vers le Christ. Ce sont des moyens et des symboles qui nous relient au Christ. Alors la question qui va se poser et qu'on a déjà touché la dernière fois, et j'y reviens parce que je crois qu'elle est importante, c'est de savoir le sacerdoce royal de Marie, le sacerdoce royal des fidèles, notre sacerdoce royal, notre sacerdoce mystique, se rattache-t-il au sacrement ou à la mort? Ordinairement, dans le langage habituel, on le rattache toujours au sacrement. Dans l'ordre du devenir, oui. Dans l'ordre de perfection, point d'interrogation. Alors c'est là où il faut y réfléchir. Nous y reviendrons.